L'empereur fut certainement enchanté de cette rencontre. Il donna à Vivaldi beaucoup d'argent, 48, ainsi qu'une chaîne et une médaille d'or, et il le fit chevalier. On ne sait pas, toutefois, si cette rencontre fut suivie d'un possible séjour à Vienne, voire à Prague, d'un engagement officiel ou d'une promesse. Eux de poste dans la capitale impériale, ces années d'intense activité furent suivies d'une nouvelle période où les faits et gestes de Vivaldi sont pratiquement inconnus, à part son déménagement en mai 1730 dans une maison près du Palazzo Bambo, dont les fenêtres donnaient sur le Grand Canal, 50, période pendant laquelle le compositeur voyagea probablement à travers l'Europe, ne reparaissant à Venise qu'à partir de 1733. Peu d'œuvres sont datables de manière sûre des années 1729 et 1730. Les quelques opéras composés jusqu'en 1732 furent montés hors de Venise, Alvilda, Rogine dei Goti à Prague et Semiramide à Mantoue en 1731, la fille d'Aninfa à Vérone et d'Oricla, 51, à Prague en 1732. Dernière année à Venise. C'est en janvier 1733 que Vivaldi fit un retour remarqué, au moins par sa musique, à Venise à l'occasion de la translation à la basilique Saint-Marc des reliques du doge Saint-Pierre Orsolo. On y exécuta un Laudat Dominum solennel de sa composition, sans qu'on sache d'ailleurs s'il en dirigea l'interprétation. En février de la même année, fut représentée à Ancône une adaptation du Siroé de 1727, puis en novembre Sant'Angelo, fut monté Montezuma et trois mois plus tard, l'Olympiade, l'un de ses plus beaux opéras, reprit presque aussitôt à Gênes. 52. C'est cette même année qu'il rencontra le voyageur anglais Edward Holdsworth auquel il expliqua qu'il ne voulait plus faire éditer ses œuvres, trouvant un meilleur profit à les vendre à l'unité aux amateurs. Le même Holdsworth devait, en 1742, acquérir 12 sonates de Vivaldi, pour le compte de son ami Charles Jenin, librettiste de Handel. 1735 fut à nouveau une année, record, en matière d'opéra, avec deux ouvrages montés au Teatro Filarmonico de Vérone, pendant le carnaval. L'Adelaide et Il Tamerlano, 54, et deux autres produits pour la première fois au Théâtre San Samuel de Venise, la Griselda et Aristide. Ce furent les deux seules œuvres de Vivaldi composées pour ce théâtre, propriété de la riche famille Grimani, qui possédait aussi le prestigieux théâtre San Giovanni Grisostomo et un fastueux palais situé sur le Grand Canal. Elles mirent Vivaldi en contact avec l'un des grands écrivains italiens de son temps, le jeune Carlo Goldoni alors âgé de 28 ans. La rencontre avec Goldoni est importante car celui-ci l'a raconté dans deux de ses écrits, 55, témoignage précieux sur la personnalité et le comportement du musicien vieillissant, et, on l'a vu, sur la personne d'Anna Gireux. Goldoni, revenu depuis peu à Venise, venait de connaître le succès, pour lui inattendu, de sa première pièce, Blisario, et avait été chargé, par les Grimani d'adapter, 56, le livret d'Apostolo Zeno, pour la Griselda qui devait être mise en musique par Vivaldi. Ce faisant, il prenait la place de Domenico Lalli, l'ancien ami rancunier, qui avait barré la route de Vivaldi à l'entrée des théâtres Grimani. L'accueil du compositeur, envers le jeune écrivain, qui lui avait été envoyé fut tout d'abord peu amène, et empreint à la fois de condescendance et d'une certaine impatience. La scène décrite par Goldoni donne l'impression, chez le compositeur, d'une agitation fébrile, et de la rapidité avec laquelle la suspicion et la méfiance pouvaient chez lui se transformer en enthousiasme. D'abord rabroué par Vivaldi, pour avoir légèrement critiqué Anna Gireux, il se rattrapa en écrivant sur le chant 8 vers conforme au type de chant expressif que le musicien voulait introduire dans le livret et faire chanter par sa jeune élève. Il n'en fallut pas plus pour changer l'opinion de Vivaldi à son égard, celui-ci, délaissant son bréviaire, qu'il n'avait pas lâché depuis le début de l'entrevue, appela la Gireux. « Ah, lui dit-il, voilà un homme rare. Voilà un poète excellent, lisez cet air, c'est monsieur qui l'a fait ici, sans bouger, en moins d'un quart d'heure. » Puis s'adressant à Goldoni. « Ah, monsieur, je vous demande pardon. » Et il l'embrassa, protestant qu'il n'aurait jamais d'autre poète que lui. Après Griselda, Goldoni écrivit encore pour Vivaldi le livret d'Aristide, 57, également représenté au San Samuel à l'automne 1735, mais leur collaboration ne se prolongea pas au-delà. En 1736, fut créé un seul opéra, Ginevra, Principes Discosia o Teatro, de la Pergola de Florence. Entre-temps, Vivaldi reprit ses fonctions à la Pietà en tant que maestro dei concerti, aux appointements de 100 ducats annuels assortis du souhait qu'il ne partit plus de Venise, comme les années passées, ce qui indique assez ses absences répétées et confirme la haute considération qu'on avait pour ses qualités professionnelles. 1736 fut également l'année où Vivaldi perdit celui qui aura orienté, guidé et accompagné toute sa carrière. Son père mourut le 14 mai, âgé de plus de 80 ans. Vivaldi monta Catone, in Utica à Vérone au printemps de 1737, le livret de Métastase ayant été jugé politiquement subversif par la sourcilleuse censure vénitienne, il s'apprêtait à organiser une saison d'opéra à Ferrare. Son protecteur local était le marquis Guido Bentivoglio, auquel le compositeur écrivit plusieurs lettres qui ont été heureusement conservées, 58. Ces lettres sont un précieux témoignage sur les conditions difficiles dans lesquelles le musicien se débattait de façon continuelle, les patrons du théâtre de Ferrare ne parvenant pas, entre autres, à se mettre d'accord avec lui sur le programme. Cependant, l'affaire commençait à bien se préciser lorsqu'une difficulté inattendue et insurmontable se présenta. Quelques jours avant de partir en novembre pour Ferrare, Vivaldi fut convoqué par le nonce apostolique qui lui signifia l'interdiction de s'y rendre prise à son égard par Monseigneur Ruffo, cardinal archevêque de la ville. Cette décision catastrophique, compte tenu de l'avancement du projet et des engagements financiers déjà consentis, était motivée, 59, par le fait qu'il ne disait pas la messe et avait l'amitié de la Gireux. Dans la lettre, Vivaldi exposait la raison pour laquelle il ne disait plus la messe et protestait de la parfaite honnêteté de ses relations avec les dames qui l'accompagnaient depuis des années dans ses déplacements, lesquelles faisaient leur dévotion tous les 8 jours comme on pouvait s'en assurer par des actes jurés et authentiques. Il semble bien que rien n'y fiait, qu'il dut renoncer à son projet. Le 30 décembre suivant, il créait au Sant'Angelo l'oracolo in. Malgré les déboires de 1737, Vivaldi eut une double satisfaction l'année suivante. Ce fut l'un de ses concertos, RV 562A, qui servit d'ouverture au grand spectacle organisé à l'occasion du centenaire du Théâtre d'Amsterdam. Puis il dirigea lui-même l'interprétation de sa cantate Il Mopso, 60, devant le frère du prince électeur, de Bavière. Il produisit aussi le Pastinxio Rosmirafedl, 61, au Théâtre Sant'Angelo. Parti de Dijon au mois de juin 1739, le président de Brosse était à Venise le mois d'août suivant, il écrivit le 29 août à son ami Monsieur de Blancet, une lettre qui reste l'un des témoignages directs sur le prêtre roux. Vivaldi s'est fait de mes amis intimes pour me vendre des concertos bien chers. Il y a en partie réussi, et moi, à ce que je désirais, qui était de l'entendre et d'avoir souvent de bonnes récréations musicales. Cet Invecchio, qui a une furie de composition prodigieuse. Je l'ai ouï se faire fort de composer un concerto, avec toutes ses parties, plus promptement qu'un copiste ne le pourrait copier. J'ai trouvé à mon grand étonnement qu'il n'est pas aussi estimé qu'il le mérite dans ce pays-ci, où tout est de mode, où l'on entend ses ouvrages depuis trop longtemps, et où la musique de l'année précédente n'est plus de recette. Le fameux Saxon, 62, est aujourd'hui l'homme fêté? Depuis des années déjà, l'opéra napolitain, 63, tendait à supplanter à Venise la tradition opératique locale, personnifiée par Vivaldi. Ce dernier, malgré certaines concessions au goût nouveau dans ses œuvres récentes, symbolisait le passé, pour un public toujours avide de nouveautés. Son temps était passé, certainement en avait-il conscience, et cette constatation allait peser dans sa décision de s'éloigner de Venise, qu'Anna Gireux avait elle-même quitté quelque temps, plutôt pour se joindre à une troupe théâtrale, en séjour dans l'Empire des Habsbourg. Frédéric Christian, électeur de Saxe portrait, par Anton Raffalement, château de Wiesenstein, Saxe. Frédéric Christian, électeur de Saxe. Portrait par Anton Raffalement, château de Wiesenstein, Saxe. Pour l'heure, il composait son dernier opéra, Feraspe, présenté au Sant'Angelo en novembre. L'année 1740 fut la dernière pendant laquelle Vivaldi fut présent à Venise. Au mois de mars, un grand concert fut donné à la Pietà, au cours d'une fête somptueuse, en l'honneur du prince électeur de Saxe Frédéric Christian, comprenant une sérénade du maestro di coro Gennaro d'Alessandro et plusieurs compositions de Vivaldi, dont l'admirable concerto pour luth et viol d'amour RV 540. Départ de Venise et décès à Vienne. Ce devait être le dernier concert de prestige auquel il participa. Quelques semaines plus tard, au mois de mai, après avoir vendu à la Pietà un lot de concertos, Vivaldi quittait Venise, où il ne devait plus revenir. S'il n'en avait pas conscience, tout au moins prévoyait-il une assez longue absence, car il prit soin de régler certaines affaires. On ne sait pas quelle était la destination prévue au départ de Venise, et plusieurs hypothèses ont été proposées. Gras, où il aurait pu retrouver Anna Giraud, Dredd, où il jouissait d'une grande réputation, où travaillait son ami Pisandel, et où il aurait pu trouver la protection du prince électeur rencontré récemment à Venise, Prague, où avaient été représentés plusieurs de ses opéras, Vienne évidemment, où l'attendait peut-être l'empereur Charles VI. Quelle que dût être sa destination finale, il semble que Vivaldi avait l'intention de participer à une saison d'opéra au Kärntner Tortater de Vienne, et c'est près de cet établissement qu'il logeait. Mais le 20 octobre, l'empereur mourait, son deuil interdisait toute représentation, et Vivaldi n'avait plus de protecteur, ni de ressources assurées. Le mystère plane sur les conditions précaires dans lesquelles il vécut ces derniers mois. Le dernier de ses écrits, qu'on ait retrouvé, est un reçu de 12 florins, en date du 28 juin 1741, pour la vente de concerto à un certain comte Vinci Garadi Colalto. Vivaldi décéda d'une inflammation interne, pauvre et dans la solitude, le 27 ou le 28 juillet dans une maison qui allait être détruite à la fin du XIXe siècle. Le 28 juillet, le service funèbre fut célébré à l'église Saint-Étienne suivant le cérémonial réservé aux indigents. On a longtemps imaginé que parmi les enfants de cœur présents à l'office figurait un jeune garçon du nom de Joseph Haydn. Le cimetière du Burgerspital, où fut reçue sa dépouille, a aujourd'hui disparu. Une simple plaque rappelle son souvenir. La mort du musicien fut connue à Venise au mois de septembre suivant, dans l'indifférence générale. Il avait gagné en un temps plus de 50,000 ducats, mais sa prodigalité désordonnée l'a fait mourir pauvre à Vienne. Telle est l'épitaphe anonyme retrouvée dans des archives vénitiennes, les Commemoriali Gradnigo. Personnalité. Un des signes particuliers de Vivaldi était sa chevelure rousse à laquelle il devait son surnom, Il Pretroisso. On sait aussi, par l'esquisse de Genzi, qu'il avait un long nez aquilin, des yeux vifs et la tête enfoncée dans les épaules. Bien qu'ayant cessé de dire la messe, il continua sa vie durant à porter l'habit ecclésiastique, à lire assidûment son bréviaire et à faire preuve d'une grande bigoterie. La description de Goldoni laisse l'impression d'une agitation fébrile et d'une grande nervosité. Le handicap physique dont il se plaignait était une sorte d'asthme, peut-être lié à sa nervosité, à une angoisse chronique. Sans aller jusqu'à parler d'une maladie imaginaire, les biographes s'étonnent de ce que cette infirmité lui a interdit de dire la messe, mais aucunement de déployer pendant toute sa carrière une activité débordante et d'entreprendre de nombreux voyages, fort fatigants à l'époque, en Italie et dans toute l'Europe centrale. Violoniste virtuose, professeur, chef d'orchestre, musicien animé d'une furie de composition, comme le note le président de Brosse, impresario d'opéra, le rythme semble ne jamais se ralentir et ferait penser à celui de Handel qui, lui, jouissait d'une santé à toute épreuve. La nature exacte de ses rapports avec les femmes de sa compagnie reste mystérieuse, même s'il a toujours protesté de leur parfaite honnêteté, il n'aurait éprouvé pour Anna Giraud et sa sœur aînée Paulina qu'une amitié voire une sorte d'affection paternelle. Les historiens acceptent ces explications, faute de preuves tangibles du contraire, mais les contemporains ne se privaient pas d'imaginer bien des choses, ce qui lui valut quelques problèmes, avec les autorités ecclésiastiques, annulation d'une saison d'opéra à Ferrare notamment. Son rapport à l'argent est mieux connu et transparaît dans ses écrits. Vivaldi était très attaché à la défense de son intérêt financier, sans le mettre toutefois au-dessus de son amour de la musique. Ses gages à la Pietà étaient fort modestes mais avaient, pour contrepartie de pouvoir disposer d'un laboratoire de qualité et d'une couverture d'honorabilité. Il est probable qu'il ait gagné à certains moments des sommes importantes, mais sans jamais bénéficier d'une position stable, qui lui permit de rendre régulières ses rentrées financières, et au prix d'une certaine prise de risque personnel dans le montage de ses opéras. Il traînait avec lui une réputation de prodigalité, qui se comprend quand il affirmait, avec une certaine affectation, ne se déplacer qu'en voiture ou en gondole, et avoir besoin de disposer en permanence de personnes connaissant ses problèmes de santé. Il était animé d'une certaine vanité voire vantardise, entretenant soigneusement la légende de sa rapidité de composition, il nota sur le manuscrit de l'opéra Tito Manlio, musique faite par Vivaldi en 5 jours, ainsi que sa familiarité avec les grands, dans une lettre au marquis Bentivoglio, il indiquait non sans fierté, qu'il correspondait avec 9 altesse. Postérité. Plaque commémorative à Venise. En ce lieu s'élevait la chapelle musicale du conservatoire de la Pietà, où le génie d'Antonio Vivaldi, à l'époque encore mal compris, s'exerça en tant que maestro de concerti de 1703 à 1740, donnant à Venise et au monde l'incomparable richesse de sa musique, dont les 4 saisons sont la fleur et le sceau. Son temps est maintenant venu. Plaque commémorative à Venise. En ce lieu s'élevait la chapelle musicale du conservatoire de la Pietà, où le génie d'Antonio Vivaldi, à l'époque encore mal compris, s'exerça en tant que maestro de concerti de 1703 à 1740, donnant à Venise et au monde l'incomparable richesse de sa musique, dont les quatre saisons sont la fleur et le sceau. Son temps est maintenant venu. Influence. L'influence de Vivaldi peut s'analyser selon trois axes. Astérisque Vivaldi était, selon tous les témoignages contemporains, un virtuose incontesté du violon. Il a promu une technique de jeu originale, bariolage, grand staccato, double corde, parfois décrié pour son aspect spectaculaire et excessif, mais qui a été suivi par ses disciples, émules directs et indirects. Pisandel, Tessarini, Somi, Leclerc, Guignon, Guillemin, 66, etc., on peut le reconnaître comme le lointain précurseur de Paganini. Astérisque principal initiateur et promoteur du concerto soliste, c'est un créateur de forme essentielle dans le développement de la musique classique. Le concerto et la symphonie lui doivent l'impulsion initiale qui en a fait les formes orchestrales majeures pendant la période classique, le XIe siècle et au-delà. Astérisque le compositeur a parfois été critiqué pour certaines de ses faiblesses. Celles-ci doivent être examinées au regard des très nombreux compositeurs qui ont suivi son exemple et se sont inspirés de son style d'écriture. Italiens comme Marcello, Tartini, Galuppi, Gemignani, Locatelli, Vrassini, Sammartini, français tels Bodin de Bois, Mortier, Leclerc, Hubert ou allemand, notamment Thalmann, Haydn et surtout Bach, qui fut envoûté, 67, par ses concertos et qui y en transcrivit au minimum 10, dont 6 pour le seul recueil de l'Estro Armonico, opus 3. Bach ne s'est pas contenté de transcrire des œuvres qu'il admirait particulièrement, il a fait sienne la structure tripartite, allegro andante allegro, et le style d'écriture de Vivaldi. Cette influence se manifeste par exemple dans les concertos pour violon BWV 1041-1043, de même que dans le concerto italien pour clavecin solo BWV 971. En revanche, un fait étrange est à signaler. Le soin que semble prendre Handel à éviter la structure du concerto vivaldien, que ce soit dans ses concertos pour bois ou dans ceux pour orgue, bien postérieurs. Oubli et redécouverte. Dès sa disparition, le nom et la musique de Vivaldi tombèrent dans un oubli complet dans sa patrie. Cependant que certaines de ses pièces instrumentales continuaient à être appréciées dans diverses contrées européennes pendant plusieurs dizaines d'années, notamment en France, en Saxe. Ses œuvres étaient dispersées sous forme imprimée ou de copies manuscrites dans de très nombreuses collections et bibliothèques européennes à Gênes, Dresde, Berlin, Manchester, Paris, Naples, etc., où elles devaient rester ensevelies et oubliées pendant près de deux siècles ou plus. Johann Nikolaus Forkel, s'appuyant sur les témoignages directs des fils de Bach, qui étaient d'ailleurs critiques à l'égard de Vivaldi, 69, savait quelle part importante le Vénitien avait eue dans la maturation de son style. Au XIe siècle, seuls quelques érudits et historiens allemands pour la plupart conservèrent le souvenir du prêtre Roux, 70. La redécouverte de Bach projeta quelques lumières sur ce compositeur dont il avait pris la peine d'étudier et de transcrire certaines œuvres. Il apparaissait d'ailleurs difficile à comprendre, pour ses pionniers, que le maître puisse s'intéresser à ce musicien obscur et de second ordre. Ils se sortirent du dilemme en décrétant que les transcriptions de Bach étaient bien supérieures aux œuvres originales de Vivaldi. En 1871, furent découvertes et publiées les lettres de Vivaldi au marquis Guido Bentivoglio, rare collection d'autographes témoignant de sa vie de musicien et d'entrepreneur, jetant aussi quelques lumières sur sa personnalité. À l'orée du XIe siècle, Arnold Schring, ayant eu connaissance de pièces conservées à Dresde, où elles avaient probablement été apportées par Pisandel, prit conscience de l'importance déterminante de Vivaldi dans la naissance et le développement du concerto soliste. En 1913, Marc Pincher le décida de consacrer sa thèse de doctorat à ce musicien alors totalement inconnu du grand public. Le travail fut interrompu par la Première Guerre mondiale. Cependant, la découverte fortuite des manuscrits de Turin, voir ci-dessous. Pendant les années 1920 à 1930, vint opportunément sortir de l'oubli un lot énorme de partitions tant instrumentales que religieuses et lyriques, 72. Bientôt érudits et musiciens commencèrent à s'intéresser réellement à cette œuvre monumentale. Établissement de catalogues, édition critique par la maison Ricordi et interprétation des œuvres, instrumentales dans un premier temps, puis religieuses. En 1939, fut organisée l'Accademia Shingiana de Sienne, sous la direction artistique d'Alfredo Casella, une settimana Vivaldi, Semaine Vivaldi, où fut représenté l'opéra L'Olympiade. Ce fut la première reprise d'un drame à pair, musiqué de Vivaldi depuis deux siècles. D'autres œuvres y commencèrent leur carrière moderne, entre autres le Stabat Mater et le Gloria Hervé 589. Mais, la Seconde Guerre mondiale survenant, cette initiative n'eut pas de suite immédiate. Musicologues, historiens, archivistes et interprètes reprirent leurs travaux dès la fin du conflit. En 1947 fut fondé, à l'initiative d'Angelo Effrichian et Antonio Vanna, l'Istituto Italiano Vivaldi, 73, qui se fixait comme objectif, en collaboration avec l'éditeur Ricordi, d'assurer l'édition complète des œuvres. Cette entreprise fut menée à bonne fin en 1973 pour les sonates, concertos et sinfonia. En 1948, Marc Pincherl terminait et publiait son étude, 74. En 1974, paraissait la première version du catalogue exhaustif de Peter Riom, depuis lors complétée par les nouvelles découvertes. La musique de Vivaldi, instrumentale et, dans une moindre mesure, religieuse, bénéficia à partir des années 1950 de très nombreux concerts et de la diffusion discographique, micro-sillon puis CD. Les quatre saisons sont, en musique classique, les œuvres plus enregistrées du répertoire. C'est enfin à partir des années 1970 que s'achève la Vivaldi Renaissance autour de ses opéras. Il est, après Händel, le compositeur d'opéra antérieur à Mozart, qui bénéficie à présent de la plus large discographie. Les manuscrits de Turin. La Bibliothèque nationale universitaire de Turin possède la plus importante collection de partitions autographes de Vivaldi. L'histoire de son acquisition est elle-même si extraordinaire qu'on pourrait la croire tirée d'un roman. En 1926, le recteur du collège salésien San Carlo de Borgo San Martino, village situé non loin de Casal Monferrato, voulut entreprendre des travaux de réparation dans son établissement. Il eut l'idée, pour rassembler les fonds nécessaires, de mettre en vente de vieux ouvrages de musique, soit des dizaines de manuscrits et livres imprimés, que possédait la bibliothèque du collège. Afin de connaître le prix qu'il pourrait en demander aux antiquaires, il soumit leur expertise au musicologue et directeur de la Bibliothèque nationale universitaire de Turin, Luigi Tori, 1863 à 1932, lequel confiait ce travail à Alberto Gentili, 1873 à 1954, professeur d'histoire de la musique de l'université. Il s'avéra que, parmi les volumes de la collection, 14 rassemblaient des partitions de Vivaldi. Musicien alors peu connu du grand public, il y avait aussi des œuvres d'autres compositeurs, notamment d'Alessandro Stradella. Soucieux de ne pas voir disperser une collection aussi exceptionnelle, ni même de l'avoir préemptée par l'État italien, donc, peut-être de l'avoir attribuée à quelque autre institution, les experts voulurent trouver une solution pour la faire acquérir par la bibliothèque de Turin, qui ne disposait pas du budget nécessaire. Une solution finit par être trouvée par Alberto Gentili. Il parvint à persuader une riche agent de change, Roberto Foa, d'acquérir la collection et d'en faire don à la bibliothèque, en mémoire de son jeune fils Mauro, mort en bas âge quelques mois auparavant et dont le fonds allait porter et perpétuer le nom. Cependant, ayant examiné les manuscrits vivaldiens, Gentili découvrit que, selon toute évidence, ceux-ci faisaient partie d'une collection plus importante, dont il se mit en tête de découvrir la partie manquante. Les ouvrages cédés par les Salésiens leur avaient été légués par un certain Marcello Durazzo, 1842 à 1922. Grâce à l'aide de généalogistes, on identifia en 1930 le possesseur des autres volumes de la collection initiale, dont 13 nouveaux d'œuvres de Vivaldi, un héritier du frère de l'autre propriétaire, Flavio Ignazio, 1849 à 1925, qui habitait à Gênes. Il fallut toute la patience et l'habileté du marquis génois Faustino Curlo, 1867 à 1935, pour obtenir du détenteur que cette seconde collection fût cédée afin de reconstituer définitivement l'ensemble initial. La bibliothèque de Turin, ne disposant toujours pas du budget pour l'achat, Alberto Gentili dénicha, dans les mêmes conditions, un nouveau mécène, l'industriel Filippo Giordano, qui accepta aussi, en mémoire de son jeune fils Renzo, décédé peu avant à l'âge de 4 ans, d'acheter la collection et d'en faire don à la bibliothèque de Turin en souvenir de son fils. Les deux fonds ainsi rassemblés restèrent cependant distincts, sous les noms respectifs de Mauro Foa et Renzo Giordano, rassemblant 80 cantates, 77, 42 pièces sacrées, 20 opéras, 307 pièces instrumentales et l'oratorio Judita Triumphant, 78, soit un total de 450 pièces, dont la quasi-totalité de la musique d'opéra. Les recherches faites montrèrent que l'ensemble des volumes avait, à l'origine, appartenu au comte Giacomo Durazzo, 79, ambassadeur d'Autriche à Venise de 1764 à 1784, et par d'un des derniers doges de Gênes, et depuis lors avait été transmis dans la famille, dans cette ville. Les musicologues ne purent exploiter rapidement cette découverte exceptionnelle car Alberto Gentili, auquel les droits d'études et de publication avaient été expressément réservés, était juif et comme tel interdit d'activité académique par les lois raciales de l'Italie fasciste. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que l'étude et la publication purent en être menées à leur terme. Dans sa monographie consacrée à Vivaldi, Roland de Condé a pu écrire que sa musique était « vécue plus que pensée, 80 ». La spontanéité, le dynamisme et la fraîcheur de cette musique ont sans nul doute été à la base de sa très grande popularité, concrétisée par le nombre pléthorique des exécutions en concert et des enregistrements de ses pièces les plus connues, notamment les 4 saisons. Ses qualités indiscutables, jointes au volume impressionnant de sa production et à sa surexploitation en tant que musique d'ambiance, ont aussi été la cause d'un malentendu. Comme les autres compositeurs de génie, Vivaldi a un style personnel et est immédiatement reconnaissable. Marquant de son empreinte les centaines de concertos qu'il a composés dans sa vie, ce style peut donner, à qui les écoute d'une oreille distraite, l'impression de la répétition et de la monotonie. Le compositeur lui-même a pu fournir les arguments pour croire à une production de série, sans véritable valeur artistique, en se vantant de composer plus vite que le copiste, ne pouvait recopier la partition, ce qui était peut-être vrai et dénotait surtout un métier exceptionnel. Pourtant, Vivaldi était plus considéré, par certains de ses contemporains, comme un violoniste d'exception, à la virtuosité suspecte, que comme bon compositeur. Goldoni affirmait ainsi qu'il était excellent joueur de violon et compositeur médiocre, et que d'autre part, les vrais connaisseurs disent qu'il était faible en contrepoint et qu'il conduisait mal ses basses. De fait, Vivaldi privilégiait l'aspect mélodique de la musique sur son aspect contrapuntique au point d'avoir pu être considéré comme l'un des fossoyeurs du contrepoint. On reconnaît à Vivaldi le génie de l'orchestration, c'est-à-dire de la couleur orchestrale. Il choisissait avec soin les timbres et recherchait leur équilibre, inventa des associations d'instruments inédites, utilisa l'un des premiers les effets de crescendo. C'est, à ce titre, un précurseur. Igor Stravinsky, auteur de l'affirmation sous forme de boutade, selon laquelle Vivaldi aurait composé, non 500 concertos, mais 500 fois le même concerto, a porté le plus grand tort à cette œuvre remarquable, en couvrant de son autorité une accusation injuste, parce que fondée plutôt sur une impression que sur l'analyse objective. Le fait que les 4 saisons, ou tel concerto pour mandoline, soient parmi les rares pièces du répertoire classique à être identifiées avec sûreté par un public non averti tant, en effet, à en rabaisser la valeur dans l'esprit des mélomanes, connaisseurs, ou prétendus tels. Non que Vivaldi ne se soit parfois laissé aller à la facilité, à la virtuosité gratuite et à l'autoplagiat, cette dernière pratique était monnaie courante à son époque et peut être reprochée au plus grand de ses contemporains. Le compositeur, travaillant souvent à la hâte, pour ses œuvres de commande, aussitôt oubliées que composer et jouer, pouvait bien être tenté de réutiliser des thèmes ou d'user de procédés tous faits. Il demeure que dans ses compositions les plus originales et les plus accomplies, y compris dans celles qui sont rabâchées à l'excès, Vivaldi atteint une véritable grandeur. Les exemples de son génie musical sont nombreux et se laissent reconnaître sans peine quand on y prête attention. Les 4 saisons, bien sûr, pièces innovatrices lorsqu'on les replace dans leur contexte musical des années 1720, mais nombre de concertos, justement réputés pour leur lyrisme, leur mélodie attachante, leur rythmique irrésistible, leur parfaite adéquation à l'instrument auquel ils sont destinés. À défaut d'être d'accord avec Stravinsky, on peut suivre l'opinion de Bach, qui s'est donné la peine de transcrire nombre de concertos vivaldiens. Ce génie, reconnu depuis longtemps dans les plus belles de ses pièces religieuses, n'est plus discuté dans ses opéras. Dernière partie de sa production a profité d'une remise à l'honneur par les musiciens et le public. Musique instrumentale. C'est à sa musique instrumentale, et principalement à ses concertos, que Vivaldi doit la place éminente qu'il occupe dans la musique européenne. Sonates. On conserve de Vivaldi environ 80 sonates, dont 36 imprimées sous numéro d'opus, numéro 1, 2, 5 et 14. Ses premières œuvres imprimées, les opus 1 et 2, ressortissant de cette forme musicale, susceptible d'une exécution facile dans le milieu familial et amical par le jeune musicien et son violoniste de pair. Les formules instrumentales les plus utilisées sont un violon, une quarantaine de pièces. De violon, une vingtaine. Un violoncelle, 9 pièces dont les 6 de l'opus 14 longtemps considérées d'attribution douteuse, une flûte. Dans ses sonates, Vivaldi se conforme à la structure traditionnelle de la sonata da camera, magistralement illustrée par Corelli, se sentant fait des suites respectant, sans grande rigueur, la structure allemande courante Sarabandjig. Ses premières sonates sont des œuvres soignées mais de peu d'originalité. À l'exemple de Corelli, il termine son premier recueil par une suite de variations sur la folia. Celle-ci se fait jour dans les pièces plus tardives, et notamment les magnifiques sonates pour violoncelle de l'opus 14, qui appartiennent au grand répertoire de l'instrument. Concerto. Le concerto est la forme musicale dans laquelle s'inscrit la plus grande partie de son œuvre instrumentale, qui a fondé sa renommée européenne et qui le place au rang des plus grands compositeurs. S'il n'en est pas l'unique créateur, 85, c'est lui qui en a fait une des formes les plus importantes de la musique classique occidentale. L'ensemble des concertos composés par Vivaldi est d'une extraordinaire variété. Cette variété réside tout d'abord dans celle des formules instrumentales mises en œuvre, consistant en tous les possibles avatars du concerto grosso et, plus précisément, du concertino. Ce dernier peut en effet revêtir la forme classique, le modèle de Corelli, être remplacé par un ou plusieurs solistes, on a alors le concerto soliste. Demeuré seul, concerto da camera sans ripieno, assimilable à la sonate, pour plusieurs instruments. Disparaître complètement, concerto ripieno, parfois intitulé sinfonia, préfiguration de la symphonie classique. Joué à égalité avec le ripieno, concerto pour deux orchestres. Vivaldi a aussi laissé des œuvres, pour des formations originales et inédites, telles le concerto en sol mineur pour deux violons, deux flûtes à bec, deux hautbois, basson, cordes et basses continue per l'orchestre à Did Reda RV 577, et de nombreux autres concertos P multistrumenti. La variété réside ensuite dans les instruments utilisés. Vivaldi composa le plus grand nombre de ses concertos pour le violon, afin de les interpréter lui-même. Mais il a, plus que tout autre compositeur, fait appel à presque tous les instruments en usage à son époque. Violoncelle, viol d'amour, hautbois, basson, flûte à bec, flûte traversière, flûte piccolo, salmoé, chalumeau, clarinette, 86, cor, trompette, luth, mandoline, orgue. En tant qu'instrument soliste, il ignore cependant le clavecin, auquel il ne confie, éventuellement, que la réalisation de la basse continue. Les concertos pour des instruments plus rares ont été écrits à l'intention de jeunes instrumentistes virtuoses de la Pietà ou de riches amateurs. La variété réside encore dans l'inspiration des thèmes, musique pure à prédominance mélodique, où Vivaldi brille de façon particulière, ou contrapuntique, 87, musique imitative, voire impressionniste, souvent inspirée par la nature, les quatre saisons bien sûr, mais aussi d'autres portant des noms évocateurs. La Tempesta d'Imar, la note Il Gardellino, Il Rossignolo, etc. Le fil conducteur participant à l'unité de cette œuvre immense est la structure en trois mouvements allegro, andante, allegro emprunté à l'ouverture à l'italienne et parvenu à son parfait équilibre. Même si Vivaldi la transgressa parfois, il l'imposa par la vigueur de son interprétation personnelle et par sa large diffusion imprimée ou en copie dans toute l'Europe. L'élément de base du mouvement de concerto est le ritornello, courte cellule thématique, que se partage et se renvoie, au travers de modulations et de variations ornementales, le soliste et le ripieno, procédé apparenté à celui du rondo. Il participe de façon prépondérante au style vivaldien et diffuse également dans ses opéras et ses œuvres religieuses. La pratique de Vivaldi dans ses deux principaux domaines d'activité, le concerto et l'opéra, a déterminé une auto-influence réciproque. Le rôle du soliste est, dans le concerto, tout à fait comparable à celui du chanteur d'opéra dans sa confrontation dramatique avec l'orchestre et dans la mise en avant de sa virtuosité. La production de Vivaldi s'établit approximativement comme suit, les nombres sont indicatifs, astérisque 1, 2, 3 ou 4 violons, 255, astérisque 1 ou 2 violoncelles, 30, astérisque combinaison diverse de violons, S, et violoncelles, S, 11, astérisque violon et orgue, 5, astérisque viol d'amour, 7, astérisque orchestre à cordes sans soliste, 61, astérisque 1 ou 2 mandolines, 2. Astérisque luth et viol d'amour, 1. Astérisque flûte, traversière, à bec flottino, 19. Astérisque 1 ou 2 hautbois, 23. Astérisque basson, 39. Astérisque 2 trompettes, 2. Astérisque 2 cors, 2. Astérisque concerto grosso. 26. Astérisque concerto da camera. 24. Soit plus de 500 pièces. Les œuvres publiées sous numéro d'opus, moins de 20% des œuvres composées par Vivaldi ont été éditées et publiées de son vivant et sous son contrôle à Venise puis à Amsterdam. 74 au total, 30 sonates et 84 concertos, de l'opus 1 à l'opus 12. Mis à part l'opus 10 consacré à la flûte, toutes ces pièces sont dédiées au violon ou à des formations principalement composées de violon. Un opus 13 apocryphe fut publié à Paris en 1740, regroupant des œuvres alors attribuées à Vivaldi et dont l'auteur véritable était Nicolas Quédeville. Celui-ci avait d'ailleurs utilisé du matériel thématique de Vivaldi. Enfin, on reconnaît aujourd'hui comme, opus 14, un recueil de 6 sonates, pour le violoncelle également édité à Paris, dont la source manuscrite était une collection, ayant appartenu à l'ambassadeur de France à Venise, le comte de Gergy. Astérisque opus 1, 12 sonates en trio, pour deux violons et basse continue. O édition, Venise 1705, Giuseppe Sala, réédition. Amsterdam 1712 à 1713, Estienne Roger. O dédicace, Hannibal Gambara. Astérisque opus 2, 12 sonates pour violon et basse continue. O édition, Venise 1709, Antonio Bortoli, réédition. Amsterdam 1712, Estienne Roger. O dédicace, Frédéric IV de Danemark. Astérisque opus 3, 12 concertos pour un, 2 ou 4 violons, cordes et basses continues, l'estro harmonico. O édition, Amsterdam 1711, Estienne Roger. O dédicace, Ferdinand III de Médicis. Astérisque opus 4, 12 concertos pour violon, la Stravaganza. O édition, Amsterdam 1714 à 1715, Estienne Roger. O dédicace, Vettor Dolphin. Astérisque opus 5, 6 sonates pour un ou deux violons. O édition, Amsterdam 1716, Jean Roger. O dédicace, 100. Astérisque opus 6, 6 concertos pour violon. O édition, Amsterdam 1716 à 1721, Jean Roger. O dédicace, 100. Astérisque opus 7, 12 concertos pour violon et hautbois. O édition, Amsterdam 1716 à 1721, Jean Roger. O dédicace, 100. Astérisque opus 8, 12 concertos pour violon, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Les quatre premiers sont Les quatre saisons. O édition, Amsterdam 1725, Michel Le Sen. O dédicace, Comte de Morzin. Astérisque opus 9, 12 concertos pour violon, La Sutra. O édition, Amsterdam 1727, Michel Le Sen. O dédicace, Charles VI de Habsbourg. Astérisque opus 10, 6 concertos pour flûte, cordes et basses continues. O édition, Amsterdam 1728, Michel Le Sen. O dédicace, 100. Astérisque opus 11, 6 concertos pour violon et hautbois. O édition, Amsterdam 1729, Michel Le Sen. O dédicace, 100. Astérisque opus 12, 6 concertos pour violon, cordes et basses continues. O édition, Amsterdam 1729, Michel Le Sen. O dédicace, 100. Astérisque, opus 13 apocryphe. 6 sonates pour musette, vielle, flûte, hautbois, violon et basse continue, Il Pastor Fido. O édition, Paris 1737, Madame Boivin. O ce recueil est l'œuvre de Nicolas Quédeville, qui utilisa du matériel thématique de Vivaldi. Astérisque, opus 14. 6 sonates pour violoncelle et basse continue. O édition, Paris 1740, Leclerc et Boivin. Musique lyrique. Opéra. Vivaldi prétendait avoir composé 94 opéras. De fait, moins de 50 titres ont été identifiés et sur ce nombre, seule une vingtaine d'œuvres nous est parvenue, certaines étant incomplètes. Par ailleurs, la pratique des reprises, sous un titre différent est du pastinxio, rassemblant à la hâte des morceaux provenant d'opéras antérieurs voire d'autres compositeurs, brouille un peu plus les comptes des musicologues. Les habitudes prises à l'époque ne favorisaient guère la vraisemblance des livrets ou la logique de l'intrigue. D'ailleurs, le public ne venait pas écouter une histoire, mais les prouesses vocales des primas, Donai et des castrats, sur les exigences desquelles étaient établis les opéras. Ces travers avaient été stigmatisés par Marcello dans son pamphlet Il Teatro alla moda, mais Vivaldi ne faisait que se conformer à l'usage, tout en essayant de résister à la mode de l'opéra napolitain, tout au moins au début de sa carrière. Ces opéras valent essentiellement pour la beauté de la musique, C'est depuis une dizaine d'années un domaine que découvrent musiciens et amateurs d'opéra. Commencé timidement dans les années 1970, la discographie s'enrichit à présent chaque année. Cantate, pièce de musique intimiste, par rapport à l'opéra, la cantate est destinée à une chanteuse soliste, soprano, contralto. Ses œuvres étaient interprétées par les pensionnaires de la Pietà. Elles dépeignent non une action, mais un sentiment, une situation psychologique, en deux arias séparées, par un récitatif. Un récitatif initial peut servir d'introduction. On a retrouvé de Vivaldi. Astérisque 22 cantates pour soprano et basse continue. Astérisque 8 pour contralto et basse continue. Astérisque 5 pour soprano, orchestre à cordes et basse continue. Astérisque 4 pour contralto, orchestre à cordes et basse continue. Comparable à la cantate, en ce qu'elle ne donnait généralement pas lieu à une action scénique, la sérénade était une œuvre de commande de dimension plus importante, avec ouverture orchestrale, aria soliste, récitative et parfois chœur. Plusieurs ont été perdus, et trois nous sont conservés. La Serenata ATR RV 690, Gloria e Himneo RV 687, et surtout la Scena Festeg Giante, la scène en fête, RV 693 composée pour une occasion liée à la royauté française. Musique sacrée, on conserve une cinquantaine d'œuvres de musique religieuse de différents types, éléments de la messe tridentine et leur introduction sur texte libre, Kyrie, Gloria, Credo, Psaume, Hymne, Antienne, Motet. Les formules vocales sont également diverses. Chant soliste, cas général des motets, qui ne sont autres que des cantates sacrées. Chœur, soliste et chœur, double chœur. Elles dépendaient de l'institution pour laquelle elles furent composées, soit l'église de la Pietà, où elles étaient interprétées pour un public payant sa place comme pour un concert, 91, soit pour la basilique Saint-Marc, dont les tribunes se faisant face, avait donné naissance à la tradition des compositions en double chœur, soit enfin pour des commanditaires tels, le cardinal Ottoboni. C'est pour les besoins de la religion que Vivaldi put donner libre cours à son génie exceptionnel, 92, en matière de musique chorale, dont l'emploi à l'opéra était parcimonieux. C'est également dans ce domaine qu'il pouvait utiliser des voix autres que les voix féminines de soprano et de contralto. Ceci distingue cette musique dans sa production. Ce sont des œuvres de grande qualité dans lesquelles se marie la tradition polyphonique et le caractère festif et enjoué qui lui est propre. Cependant, il n'y fait pas autant figure de novateur que dans ses concertos. Les compositions à double chœur sont au nombre de 7, Kyrie, Domina d'Adjuvandum me, Dixit Dominus, Bituvir, Lauda Jérusalem, Magnificat et Salve Regina. Elles constituent, avec le Gloria RV 589 et le Stabat Mater le fond de ce répertoire, qui jouit depuis les débuts de la Vivaldi naissance des années 1950, de la faveur des musiciens et du public. Quant à l'oratorio Judita Triumphant, son caractère et sa destination le rapprochent plus de l'opéra, malgré un argument tiré des livres saints. Inventaire de ses œuvres, plusieurs musicologues du XX siècle ont établi des catalogues des compositions du prêtre Roux, de façon plus ou moins indépendante l'une de l'autre, et sur la base des œuvres identifiées à l'époque de leurs travaux, rangées selon différents critères. Il s'ensuit une certaine difficulté à reconnaître leurs correspondances, les plus anciens étant aussi les moins complets. Les références qui peuvent se trouver sont codifiées comme suit. Astérisque P catalogue de Marc Pincherle. Astérisque RC catalogue des éditions Ricordi, établi par Gianfrancesco Malipiro. Astérisque RN catalogue de Mario Rinaldi. Astérisque F catalogue d'Antonio Vanna. Astérisque RV catalogue de Peter Riom, signifie. Riom vers Eichnis et non, répertoire vivaldien. Établi en 1973. Est complété depuis lors à l'occasion de la découverte de nouvelles œuvres, 94, ce dernier est le plus complet, étant à être utilisé de façon universelle, notamment par les maisons de disques. Article détaillé, catalogue Riom. Vivaldi au cinéma, le personnage de Vivaldi apparaît dans le film « Rouge Venise » tourné par Étienne Perrier, en 1989, film retraçant un épisode de la vie de Carlo Goldoni. La vie romanesque du compositeur, a inspiré un autre film récent, Antonio Vivaldi, Un prince à Venise, coproduction franco-italienne de 2005, sous la direction de Jean-Louis Guillermou, avec la participation de Stefano Dionisi dans le rôle de Vivaldi et de Michel Serrault dans celui du patriarche de Venise. Un autre film est en préparation sur sa vie, produit par Boris Damast, titre provisoire. Vivaldi, 95, Le rôle est tenu par Joseph Fien. Parmi les autres acteurs, figurent Malcolm McDowell, Jacqueline Bisset et Gérard Depardieu.